Je suis à l'IBPC, Institut de biologie physico-chimique, et je vais rencontrer Francis-André Wollmann, qui va me parler d'un biologiste qui s'appelait Louis Rapkin. Allons-y. Francis-André, pendant l'occupation allemande, un moment un peu triste de notre histoire, il y a un grand savant, un grand scientifique qui a eu un comportement admirable en organisant l'exfiltration d'une cinquantaine de scientifiques. Louis Rapkin, tu vas nous parler de lui. Mais avant cela, je voudrais d'abord te citer, j'ai mis sur mon téléphone, ce qu'en disait Frédéric Joliot. Il disait ceci: « Que de savants lui doivent la vie ? Au moment de l'armistice, il était à Londres, en mission. Il alla par la suite aux États-Unis, où il reprit son étonnant apostolat. Que d'illustres confrères lui doivent un passeport miraculeux ? Ils ne l'oublieront pas. Il n'est pas de sauveteur, la poitrine couverte de médailles au ruban tricolore, qui est à leur actif autant d'existence que Rapkin. » Je t'écoute.
Eh bien alors, Louis Rapkin, oui, c'est en effet un scientifique, probablement l'un des plus brillants de sa génération, un précurseur dans le domaine de l'étude de l'oxydoréduction dans les processus biologiques. Alors, on commence par le début, sa naissance. Il est né en 1904, dans ce qui est maintenant la Biélorussie, dans un petit village tchétchéniste à côté de Minsk, donc dans l'empire tsariste à l'époque. Et il faut savoir que c'est une région où il est né parce que c'est une des régions rares en Russie où les Juifs étaient tolérés. Son père est un petit tailleur, sa maman ne sait ni lire ni écrire. Ils élèvent trois enfants, dont le petit Louis. Et dans la période de sa naissance, donc après l'échec de la révolution de 1905, les vagues classiques d'antisémitisme se sont encore amplifiées et les pogroms se succèdent. Et la famille décide de quitter la Russie quand le petit Louis a 7-8 ans. Et là, il décide d'aller à Paris. Pour des raisons que j'ignore, il n'y reste qu'un peu moins de 2 ans. Et là démarre le premier épisode transatlantique. Toute la famille émigre au Canada, à Montréal. Arrivé à Montréal, ce qui est remarquable, c'est peut-être une raison d'immigration d'ailleurs, la famille obtient la nationalité britannique comme sujet canadien. Il fait des études primaires et secondaires de très très bonne qualité apparemment. Il excelle dans les matières scientifiques. Il parle et écrit couramment l'anglais, le français, le yiddish. Et tout cela le conduit à être admis comme boursier dans l'université prestigieuse de McGill, où il fait 3 ans d'études de biologie, dont il sort donc diplômé avec une licence en 1924, à l'âge de 20 ans.
Mais dis-moi, il est au Canada, donc quel rapport entre France et États-Unis ? Explique-moi ça.
Eh bien, c'est là que démarre en fait l'épisode 2 transatlantique. C'est que tout seul, Louis, 20 ans, décide de quitter le Canada et de poursuivre ses études en France à la Sorbonne. Il quitte sa famille. Il part tout seul et il a un oncle, c'est souvent ça dans la famille d'immigrés, un oncle qui tient un petit magasin de chaussures rue de l'Ouest dans le 14e arrondissement de Paris. Il s'installe, il suit son première année d'études à la Sorbonne, toujours en biologie, et c'est des semaines et des mois d'extrême difficulté, car il a très très peu de revenus, il souffre de la faim, il l'a avoué ultérieurement, mais malgré tout, il réussit sa première année avec brio.
Mais dans les années 20, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes brillants dans ces universités. Qu'est-ce qui fait que lui est sorti un peu du lot ?
Alors certainement, évidemment, ça tient à ses qualités propres, donc sa très, très grande vivacité intellectuelle, mais également, je crois, au fait qu'il a toujours su comprendre et se saisir des occasions quand elles se présentaient. Il est clair qu'il a été repéré dès la première année à la Sorbonne par ses enseignants, et qui lui a été offert la possibilité de passer les mois d'été à Roscoff en Bretagne, à la station de biologie marine. Et là, à l'époque, on parle bien des années 1925, c'est la Mecque de la biologie expérimentale. Aller à Roscoff, de toute l'Europe, des gens viennent. Et là, il rencontre des gens de sa génération un peu plus âgés, qui sont tous ceux qui vont être les grands noms de la biologie française au XXe siècle. Je nomme là André Lvov, qui a eu le prix Nobel plus tard. Je nomme là Effrussi, qui fut un très grand biologiste, René Wurmser, qui était un physico-chimiste dont on va reparler, qui faisait de la biologie. Bref, il est immergé avec les époux Needham, qui sont aussi des gens de Cambridge. Elle sera la première femme à être reçue à la Royal Society en biologie. Et là, il se noue des liens professionnels et amicaux extrêmement profonds. Et là, pendant les 10-12 ans qui vont suivre, il va développer ses travaux absolument pionniers qui vont montrer, en gros, le rôle des sulfhydryl dans des processus biologiques comme le développement cellulaire précoce ou l'enzymologie, qui est, comme tu le sais, une des parties de la science biologique qui s'est beaucoup développée au XXe siècle et dont il a été un des précurseurs.
Alors, je ne comprends toujours pas le lien avec les États-Unis. Donc, il a des correspondances avec des jeunes Américains, là-bas ?
Non, ce n'est pas à Roscoff qu'il rencontre des Américains. Par contre, c'est à Roscoff que ses amis scientifiques, qui sont très impressionnés par lui, comprennent qu'il vit dans le plus grand dénuement. Et comme il est clairement bilingue, certains d'entre eux, dont René Wurmser, imaginent de le mettre en contact avec la fondation Rockefeller. Et il sera, de ce point de vue-là, un des tout premiers boursiers Rockefeller à être soutenu par cette fondation pendant 3 ans, jusqu'au moment où le même René Wurmser, qui vient de rentrer dans ce qui va devenir l'Institut de biologie physico-chimique où nous sommes aujourd'hui, dans cette bibliothèque qui n'a pas changé.
Donc Louis vient du Canada, arrive en France, va à Roscoff, et tout à coup, il va se mettre à secourir des chercheurs français en danger et les emmener aux États-Unis. Explique-moi tout ça.
Eh bien, je vais te le montrer parce qu'il est venu à l'IBPC et il y a des choses à voir à cet égard. Oui, car c'est ici, à l'IBPC, dans ce lieu encore une fois historique, la salle des Tétrarques, que Louis Rapkin a rencontré les fondateurs de l'IBPC, qui sont Jean Perrin, le physicien, Pierre Girard, physico-chimiste, André Meyer, biologiste, Georges Urbain, chimiste. Dans ce monde interdisciplinaire, il y a un grand foisonnement intellectuel, mais il n'y a pas que ça. Les fondateurs de ce lieu, en particulier Jean Perrin, sont des hommes de gauche très très engagés dans la défense des droits de l'homme. C'est ici que se crée le comité français d'accueil et d'organisation du travail des scientifiques étrangers. Pourquoi ? Parce que, on le sait, la décennie 30 et la décennie noire, les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, les fascistes ont pris le pouvoir en Italie, le dictateur Franco a détruit la République espagnole, et la France voit arriver beaucoup de scientifiques persécutés qui cherchent refuge et qui s'en occupent. C'est ici, à l'IBPC, que Louis Rapkin organise l'accueil de tous ces scientifiques persécutés qui cherchent refuge, secours en France, et il le trouve à l'IBPC.
Alors, Rapkin, en 1939, est un savant étranger en France, et en plus juif de surcroît. Quelle est sa situation ?
Eh bien, il est enfin naturalisé, en fait, en octobre 1939. Et ça le rend très heureux, en particulier parce que, vu la situation de guerre qui est en train de se développer, son souhait est d'être envoyé au front. Mais il faut qu'il attende d'être mobilisé avec sa classe d'âge. Et donc, on l'utilise entre-temps pour l'envoyer, parce qu'il est anglophone, à Londres, pour s'occuper de soutenir l'effort de guerre à venir de la France, en gérant le transport du charbon de l'Angleterre vers la France. Et du même coup, Henri Laugier le charge au nom du tout jeune CNRS d'une autre mission qui est d'essayer de comprendre comment se développe la recherche en biologie physico-chimique en Grande-Bretagne. C'est donc depuis Londres qu'il assiste en juin 40 à l'invasion du pays. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que entre juin et juillet, il constitue la première liste de scientifiques à exfiltrer du pays d'urgence, avec 3 motivations explicites qu'il veut communiquer aux alliés, en l'occurrence à l'époque à la Grande-Bretagne essentiellement, qui est éviter que ces grands scientifiques ne soient forcés par les nazis à collaborer avec eux pendant la guerre, obtenir en les exfiltrant que ces scientifiques concourent par leur savoir et leurs compétences à l'effort de guerre des alliés, et enfin que parce qu'ils seront exfiltrés, ils soient en situation de pouvoir ensuite reconstruire la recherche
en France,
ce qui est extraordinaire. Il fait tout ça en 2 mois, en ayant resollicité, bien sûr, la fondation Rockefeller à New York et ses amis de la Royal Society à Londres.
Alors, c'est donc depuis Londres qu'il assure son soutien aux chercheurs en danger ?
Eh bien, en fait, non. Et c'est là où commence le 3e épisode transatlantique. Parce que, dès août 40, il se débrouille à partir de Londres via le Portugal pour rejoindre New York, où là, avec l'aide de la Fondation Rockefeller, à qui il a fourni la liste des personnes qu'il fallait exfiltrer, il commence à préparer leur arrivée aux États-Unis.
Et donc, pendant les 4 ans qui suivent, il va s'occuper de l'insertion de scientifiques français aux États-Unis.
Alors, je dirais oui et non, parce qu'il se trouve que l'ensemble des savants, comme il disait à l'époque, qui ont été exfiltrés, de France, quand ils sont français, ont tous ensemble pris une position commune qui consiste à se déclarer français de la France libre, au service de la France libre, et désireux de combattre dans la France libre, comme scientifique, contre le régime du maréchal Pétain et contre, bien sûr, les nazis. Ce qui fait que, lorsque les Américains demandent à ces scientifiques d'entamer une démarche de naturalisation, ils refusent en bloc. Ce qui fait que pour travailler, par exemple, comme physicien sur le nucléaire, ils ne pourront jamais travailler dans le projet Manhattan, mais Rapkin arrivera à ce qu'un grand nombre d'entre eux travaillent au Canada à l'effort de guerre nucléaire porté par le Canada et les Anglais. Ce qu'il fera par contre, c'est qu'il arrivera en effet à insérer la plupart de ses collègues dans des universités américaines et de les réunir tous autour de ce qui s'est appelé l'École libre des hautes études de New York, qu'il a créée en 1942. Et il l'a créée après avoir été nommé par le général de Gaulle en 1941 le délégué scientifique auprès de la France libre, du bureau de la France libre à New York.
Que peuvent faire ce genre de personnes qui ont une activité intense et qui se retrouvent dans la vie civile ?
Alors commençons d'abord par comment on conçoit le après-la-guerre, par la fin de la guerre. Et en l'occurrence, Louis Rapkin, de nouveau, fait preuve d'une bonne capacité d'anticipation, puisque dès décembre 1943, il a compris que les Alliés vont gagner la guerre à terme, et son souhait le plus vif est d'être proche du théâtre des opérations. Depuis le début, il veut être un combattant. Donc il se déplace tout seul de New York à Londres, et là, il met en place une mission scientifique française à Londres avec l'accord du général de Gaulle. Cette mission va compter presque jusqu'à 200 membres pendant le printemps 1944, et il va convertir une partie de ses protagonistes en membres de groupes de recherche opérationnels auprès de la mission militaire française en Grande-Bretagne. Ce qui veut dire qu'il est aux avant-postes du combat final.
Bon, on arrive à la fin de ton histoire. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment se passe sa vie après la libération ?
Alors la première chose, qui est encore liée à la guerre, qui est très importante, c'est que dès août 1944, il a réussi à faire venir à Londres les scientifiques résistants de l'intérieur, au premier rang desquels Frédéric Joliot. Et il fait ça pour les réunir avec les scientifiques exilés de la France libre, de façon à ce que tout de suite, le tissu de recherche français se reconstitue de façon harmonieuse. Et donc il revient à l'IBPC en 1944, mais l'année suivante, André Lvoff le persuade d'accepter de quitter l'IBPC pour venir à l'Institut Pasteur pour créer un service de chimie cellulaire. Ce service est promis un bel avenir scientifique, mais la vie en aura décidé autrement parce que Louis Rapkin développe un cancer du poumon extrêmement agressif et il meurt à 44 ans en 1948.
Merci Francis André pour cette belle histoire qui est en fait presque une tragédie grecque. Donc merci beaucoup pour ce morceau d'histoire.
Et j'étais heureux de la partager avec toi dans ce lieu vraiment historique de l'IBPC.